de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Née dans une rue sans nom, de parents sans nom, mais dans une ville qui, elle, en a un de nom, Londres. Londres avec son brouillard, évidemment. Le brouillard qui n'empêche pas de voir le ciel, les autobus, la Tamise, les bateaux, les rues, les soldats, à condition évidemment de ne pas être aveugle, comme l'est la pauvre petite Tess. Tess sera-t-elle un jour opérée par un médecin? Et alors verra-t-elle la lumière, la tour de Londres, les docks, les grands vapeurs de tous les pays du monde? Mais alors elle verra aussi, sans doute, un monde candide et dépravé. Elle, une petite fille qui ne prononce jamais de mots d'argot et à qui il faut décrire ce qui est invisible. Il fallait Pierre Macorlan pour écrire « La fille de Londres », première diffusion sur la chaîne nationale, le 29 mars 1953. Une dramatique qui ressemble à une chanson réaliste, signée évidemment Pierre Macorlan.
La radiodiffusion française présente La fille de Londres de Pierre Macorlan et Armand Lanoux, réalisée par Georges Godbert et interprétée par ordre d'entrée en onde par Germaine Montero, Olivier Husneau, Claudie Longet, Michel Dumur, Yves Brinville, Régine Chantal, Pierre Trabeau, Françoise Vernilla, Léo Noël, Serge Emeric, Jacques Iligne. Effets spéciaux de musique concrète de Pierre Henry. Le compositeur Marceau accompagne à l'accordéon La fille de Londres que Pierre Macorlan de l'Académie Goncourt va vous présenter.
Cette pièce radiophonique est une pièce d'atmosphère, comme on dit. Cela signifie que la psychologie du paysage est plus importante que celle des personnages qui évoluent dans ce décor, souvent d'une gentillesse sordide et d'une ingénuité dangereuse. Elle n'est pas écrite pour l'éducation des enfants. Ceux-là ont bien assez des petits soucis imaginaires sans adopter les inquiétudes sentimentales et physiques de leurs aînés. Ici, la rue domine la personnalité de chacun. Je ne pense pas que les apparences de ce film puissent encore trouver un écran capable d'accueillir leur projection.
Un rat est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri.
À l'époque assez lointaine où j'ai ramassé, en les payant plus que leur prix, les éléments de cette sacrée chanson, nous habitions Shadwell. Shadwell, St. George Street, Londres. Nous habitions, si j'ose m'exprimer ainsi, près d'un dock de Wapping Station, à l'entrée d'un tunnel qui remplissait d'angoisse le morveux que j'étais. Je m'appelle Jean Rose. Jean Rose Archer. Vous avez entendu ce nom déjà? Seulement, vous ne savez pas bien de qui il s'agit. Même ici, je ne peux songer à cette époque sans entendre en moi une drôle de musique. Tout enfant, je suffoquais dans mon lit au souvenir de ce tunnel. J'appelais ma mère. Elle n'était jamais là. Elle trafiquait avec les Chinois de Limehouse.
Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi. moi, j'ai peur de moi.
Et maintenant, c'est moi qui voudrais je ne sais trop quoi. C'est moi qui ai peur de toi, qui ai peur de moi, surtout de moi. Oui. Un rat est venu dans ma chambre et il a bouffé la souricière. Oui, enfin, dans le taudis où nous vivions comme des larves lubriques, les paroles prenaient une signification intense que je n'ai jamais retrouvée. Mon père disait souvent...
Je suis supérieur à un rat, mais un rat et moi sont parfaitement égaux devant un lord ou un tailleur juif de Wentworth Street.
Et le vieil homme n'avait pas tort. Mon père était français. Mais ma mère, avec tout le respect nécessaire quand on évoque ce mot essentiel, était une fille de Limehouse, pétrie dans l'alcool comme un pudding fade. Quand ma mère chantait, ça voulait dire qu'elle avait le cafard et que les torgnoles allaient grêler. Surtout ce petit refrain un peu engageant.
Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Vas-tu venir ici, Annette, petite saleté? Annette!
Kismaya!
Qu'est-ce que tu dis?
Kismaya!
Annette, tu n'as pas fait la vaisselle, roulure! Ici! Apporte notre jean! Fais un froid de chien dehors!
Tu peux te le mettre où tu voudras, ton jean!
Apporte-moi le jean, garde! Oh, je me demande où tu peux prendre ces manières, Annette!
Kismaya!
Tu l'auras voulu! Combien de fois je t'ai dit qu'une petite fille doit être convenable? Et ne chiale pas! Vous l'avez cherché, ta ration. Mais arrête d'ornifler ou je cogne! Elle comprend que les coups. Un rat est venu dans ma chambre. Il a rongé la souricière. Il a arrêté la pendule. Et renverser le pot à bière. Et maintenant, soyez sages, les enfants. Il y a de la saucisse dans le placard. Tâchez de ne pas mettre le feu au rideau avec la lampe. Ah, Jean-Rose. À mon placard.
Jean-Rose était un garçon bien élevé. Il ne répondait jamais à sa mère. Dans mon souvenir... C'est ça l'enfance de Jean-Rose. Je suis né dans une rue sans nom, de parents sans nom. Je jouais avec des enfants sans nom dans une ville pleine de déchets qui se confondait aisément avec l'humanité qui en vivait. Je ne sais trop quel métier mon père pouvait exercer. Toujours est-il qu'il considérait comme un luxe de se faire couper les cheveux. Un soir... Mon père m'emmena, à genoux, cheminant à la tombée de la nuit, le long des hautes maisons qui bordaient une grande rue brutalement éclairée par de magnifiques perles bleuâtres, qui étaient des lampes électriques.
Oh, qu'est-ce que sympa, dans la vitrine, comme un grand monsieur qui ouvre les portes. C'est un soldat, pas?
Ouais, non, tu vois bien qu'il est en cire. C'est un j'ai oublié. Allez, viens, ne traîne pas, Jean-Rose. Tu me fatigues avec tes questions.
Oh, qu'est-ce que c'est le bateau qu'il y a dans la bouteille? Comment qu'on a fait pour le mettre dans la bouteille, pa?
C'est un bateau dans une bouteille, quoi. J'ai le mot sur la langue. J'en ai déchargé un à Brisbane, ou un à Kourachi.
Qu'est-ce que c'est, pa, Kourachi?
Un port.
Hein? Où c'est, Kourachi, pa?
C'est du côté de... c'est loin, c'est très loin, mon rat.
À Kourachi? Il y a des bateaux avec des voiles dans des grandes bouteilles, pas?
Oui, Jean-Rose.
Qu'est-ce que c'est ce qui saigne? Où il y a des fleurs en papier?
Quoi, c'est de la viande.
C'est beau la viande. C'est de la viande de quoi?
La viande, c'est de la viande. Tu me tapes sur les nerfs depuis un moment. Tiens-toi en place ou je te fais une bonne baigne. Moi, je suis pas patient et... Jean-Rose, t'es un gentil petit garçon, hein? Je te félicite de vouloir t'instruire. Tu deviendras un honnête homme et un bon citoyen, comme ton père.
Qu'est-ce que tu dis, pas? Qu'est-ce que c'était le monsieur avec des boutons brillants, le chapeau en éponge, celui qui a marché à côté de nous?
Allez, marche, mon Dieu, marche, avance. Allez, veux-tu te couiller, ma tête de larve?
Mais papa, qu'est-ce que tu dis, pa? Je peux pas marcher si vite que toi, pa. Mais qu'est-ce que c'était le grand monsieur? Tu sais ce que c'est?
Oui, je sais, ça sent mauvais par ici.
Qu'est-ce que tu dis, pa? Qu'est-ce que tu dis?
Mon père ne disait plus rien parce que nous courions à perdre haleine et que je tricotais tant que je pouvais de mes petites pattes. Mon père avait une horreur sacrée des policemen. J'ai mon temps de ne pas savoir si c'était maladif ou raisonnable. Alors, nous arrivâmes à l'angle d'une ruelle bordée de maisons basses en briques. Que c'était beau! À la porte de chaque maison illuminée se trouvait une femme en tablier blanc et jupe plissée. Elles étaient toutes très belles et très aimables. Elles souriaient à tout le monde. Elles avaient des bouches de capucine. Alors, je posais la dernière question de la promenade, mais cette fois sur le ton joyeux du gamin qui a compris.
Rudy, on va voir mon pas.
On dépassa les femmes peintes. Pas me tirer par la main parce que je regardais en arrière. Ça devenait moins beau. Plus de boutiques, plus de petites maisons, plus de lumière. Je vis un grand hangar. Des hommes fouillaient avec des crochets un amas de choses indistinctes. Mon père tira de sa veste un sac qu'il étala sur le sol.
Hey, tu vas mettre dans le sac ce que je te passerai, hein, Jean-Rose?
Oui, pas. Après, on ira voir maman, hein.
Attends, je te fais vite. Un gentil petit garçon doit aider son papa. Allez, hop.
Oh, c'est lourd, pas.
Grouille.
Oh, c'est bon, moi, j'ai pas.
On verra ça à la maison.
On a bientôt fini, pas.
Tu es dans le sac?
Oui, pas.
Bon, alors filons.
Oh, tu vas pas encore me faire courir, pas.
Allez, ouste, aide-moi à charger. Oh. Tiens, allez. Oh, il y en a bien 40 kilos, hein. Allez, si tu es sage, je te donnerai quelque chose. Bon, respire un peu, tiens. Tiens, cherche dans ma poche. Ah oui. Ah ben, tu sens rien?
Si.
Eh ben, prends.
Oh.
Il est presque neuf.
Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est... enfin, ce que tu es sourd, Jean-Rose, quoi. C'est un pantin, un polichinelle.
Un polichinelle?
Ah oui, un jouet, quoi.
Un jouet?
Ah oui, un jouet. Tu sais quand même ce que c'est qu'un jouet, non? Allez, prends-le. Aujourd'hui, petit Jean-Rose, c'est Christmas Day.
Je pris le pantin. Je le regardais sous la lueur d'un réverbère. Ma tête bourdonna curieusement. Ce mot que je ne connaissais pas encore me ravissait. Mon père avait dit « Christmas Day ». Noël. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'espérais tout comme un enfant normal au soleil. Ce soir-là, en rentrant par la rue des Dames Peintes, j'en oubliais de lui demander d'aller voir maman. Et c'est ce même soir où je venais d'apprendre un mot majeur de l'existence que j'ai fait la connaissance de Tess. Je fus très intéressé par Tess. Je lui montrais mon pantin, je m'attendais à sa stupeur, et elle dit rien. J'agitais mon pantin devant ses grands yeux verts, elle bougea pas. C'est alors qu'Annette, ma sœur, qui avait amené Tess avec elle, m'expliqua que Tess était aveugle. Puis Annette nous quitta en sautant sur un pied. J'emmenais Tess dans notre taudis et je mis ma poupée dans ses mains.
Oh, oh c'est beau un pantin. On dirait un homme tout petit.
Il est fait comme un homme, il a même des bras.
C'est beau un homme. Ça crache loin pour faire rire les filles.
J'ai craché moi, papa m'a appris. Tiens, écoute.
Oh.
Comment sais-tu ce que c'est un homme, puisque tu ne les vois pas, Tess?
Je suis dans la nuit, mais je sens les choses au bout de mes doigts. Avec mes mains, je saurais reconnaître tous les hommes.
Même les nègres?
Même les nègres.
Même les marins?
Même les marins.
Ben moi, je serais marin.
C'est ma sœur Jessie qui connaît bien les hommes. Oh là là, et comme elle leur répond. Cette nuit, j'ai rêvé d'un bel homme. Caché dans un pouding où l'on jouait de la musique. Il avait les cheveux doux comme une peau de rat. Il était coiffé d'une grande boîte en éponge.
Comme les policemen?
Oui, comme les Bobby.
Oh, je sais ce que c'est, les Bobby. Ils sont méchants parce qu'ils sont très forts. J'en ai vu un tout à l'heure.
Papa m'a dit qu'il me prendrait mon pantin. Vas-tu pas si j'ai couru, oh là là.
C'est pas des hommes, les Bobby. Dans mon rêve, l'homme, il avait deux yeux comme des billes hors de la tête. Mais ses mains, quelles mains, douces, douces. Les mains des hommes sont plus belles que celles des femmes. Et les hommes sentent une bonne odeur que les femmes ne sentent pas.
Tu crois?
Un homme beau, comme je l'aimerais. C'est tout en main et en odeur. Donne-moi tes mains, Jean-Rose.
Si tu veux, Tess.
Je te vois maintenant. Tu es comme un homme, plus petit, c'est tout. Ton front, ton nez, ta bouche, tu sens bon.
Oh, Jean-Rose, c'est trop long. C'est trop long d'attendre d'être grande.
C'est moi qui rentre.
On voit plus sa misère. Pourquoi vous n'avez pas allumé? Annette! Tu veux répondre, garce?
Annette, elle est pas là, maman.
Oh? Il dort pas encore, toi? Où est ton père?
Sorti, il a dit qu'il avait soif.
Non.
Ce que ça pue, ce pétrole. Tiens. Qui c'est, petite fille? Elle a de beaux yeux. Comment tu t'appelles, petite?
Tess, maman.
C'est la fille de la nouvelle voisine, la sœur de Jessie.
Pourquoi vous étiez dans le noir, tous les deux?
Bah, comme Tess est aveugle, c'était pas la peine, j'ai pas allumé.
C'est bien, les enfants, vous êtes sages. J'ai rapporté du pudding. Tu aimes le pudding, Tess?
Oh oui, madame.
Jean-Rose va partager avec toi.
Oh oui, maman, oui.
Écoute, t'es un garçon bien agréable, Jean-Rose. Pas comme ta mal embouchée de sœur. J'ai un peu trop bu parce que c'est Christmas Day. Mais fais bien attention à ce que je te dis, Jean-Rose.
Oui, maman.
Tu as une bonne petite chance de ne pas te balancer au bout d'une corde, toi. Une bonne petite chance. Comme vous avez été sage et que vous vous entendez bien, demain, je vous emmènerai voir le soldat.
Oh oui, maman, oh oui, maman.
Cette nuit-là, nous nous endormîmes tous les quatre comme nous étions. Ma mère, Tess, moi et le pantin, en rêvant au soldat. Le soldat était un haut gaillard à cheveux longs, coiffé d'une casquette de collège rouge et blanche, et il remoulait des airs de la cité sur un orgue à manivelle. Oh, ce qui avait comme brouillard ce Noël-là.
Oh, maman, ce qui joue bien le soldat.
Maman, racontez-moi le soldat.
Maman, dis-lui comment qu'il est le soldat.
Ben, il est très beau, le soldat, Tess. Il a de grandes moustaches blondes et pointues, et des yeux bleus, comme la faïence, celle qui est dans la vitrine du brocanteur de St. George Street. C'est vrai, tu ne sais pas.
Aussi, c'est froid, la faïence. Je le vois. Il a les yeux froids, le soldat.
Il porte une casaque rouge, rouge vif, rouge de coquelicot, et un pantalon pincé aux chevilles, tout blanc. Tu le vois, Tess?
Oh oui, maman. Et il joue une chanson d'amour, c'est pas, maman?
C'est toujours une chanson d'amour.
La.
Oh, mais tu chantes déjà bien, toi.
Pour
pourquoi tu lui as dit qu'il est beau le soldat, Tessman? C'est pas vrai, il est fripé comme une vieille pomme de terre et il lui manque une patte.
Puisqu'elle ne le voit pas, Jean-Rose, autant qu'elle croit qu'il est beau.
Me promener. Je vois des palais dorés comme des cakes. Il en sort des hommes très grands, très forts, très souriants. Ils sont tous aussi beaux que le soldat. Pas Jean-Rose?
Oui, Tess. Ils sont tous comme le soldat, les hommes.
Bon. Eh bien, sauve-toi, petite Tess. Tu es arrivée. V'là l'escalier. Ne manque pas la corde. Pauvre petit oiseau.
Pourquoi tu dis pauvre petit oiseau, maman?
Jessie, sa sœur, m'a parlé. Elle l'a conduite à l'hôpital. Les hommes en blouse blanche l'ont regardée avec des tas d'instruments. Et ils ont dit qu'un jour, elle verra ta petite amie Tess.
Elle verra? Elle pourra me voir? Le ciel, les autobus, la Tamise, les mouettes, les bateaux et la rue où il y a de la lumière et où tu vas tous les soirs, maman?
Oui. Elle verra tout, Jean-Rose. Tout. Pauvre petit oiseau.
Eh ben, ça n'alla pas aussi vite que le pensait ma mère. Des années et des années passèrent. Ma sœur Annette était devenue fleuriste, avec le classique tablier blanc et le chapeau à plumes des bouquetières de Londres, et ne disait plus d'obscénités ingénues. Mon père mourut, je serais incapable de dire comment. Ce ne dut pas être très beau, parce que personne ne me donna de détails. Mes copines étaient Jessie, qui avait fait un soir mon éducation sentimentale derrière des bois de Norvège. Elle rigolait même en perdre le souffle, cette peau. Et aussi Tess, la petite aveugle de mon âge que j'aimais toujours autant.
Je t'aime, tu sais, Tess.
Si tu m'aimes, laisse-moi caresser ta figure. Oh, tes yeux! Tu fermes tes yeux quand je te caresse la figure. Et tu plisses ton front, et tu fronces le nez. C'est ça, Jean-Rose, faire la grimace?
Si tu veux.
Alors tu es bien un homme. Et tu laisses pousser ta moustache?
Oui,
tu es en train de devenir un homme. Oh, les hommes sont si beaux, si forts, si lourds. Leurs mains sont des bêtes à part, ils sentent l'odeur d'un alcool que je n'ai jamais bu. Oui, tu es un homme, Jean-Rose.
J'ai 16 ans, Tess.
Tu es déjà lourd et tu sens l'alcool secret.
C'est toi qui fais la grimace, Tess.
Parce que je réfléchis.
Dis.
Je me demande si un homme, c'est bien ce que j'imagine. Ce qui est lourd, c'est peut-être ce que vous mettez dans vos poches. Je voudrais savoir si je me suis trompée.
Un jour, tu verras la lumière, Tess. Les médecins l'ont répété, tu sais que je n'invente pas. Tu verras la tour de Londres, les maisons de Limehouse, les docks, les grands vapeurs de tous les pays du monde. Tu veux bien?
Je veux bien. Je verrai les hommes et tu me conduiras à Hyde Park, où ta sœur Annette m'a expliqué que les hommes qui lui achètent des fleurs sont si beaux, si grands, si forts, si lourds et si parfumés que leurs petits-enfants sont des dieux.
J'ai connu aussi Fou, le petit chinois d'Alice Brown, celui qui vendait de la poudre blanche. Avant son arrestation, il m'avait fait peindre le cercueil dont il était amoureux. C'est là que tout s'est mis à changer. Fou me donna de l'argent. Je restais longtemps stupide à l'idée qu'on pouvait gagner de l'argent en dessinant des dragons avec un pinceau. Et je devins pour les copains le peintre, capable de trousser des femmes nues sur des cartes de Bristol Soup sans trop d'erreurs anatomiques. Jean-Rose Archer, le peintre. Maintenant,
Je peins des matelots et des filles. Je vis à Paris dans un atelier clair. J'ai une amie très gaie. Et tout cela est fade comme le pain sans sel. Mais à 17 ans, Tess était toujours aveugle. Et je vivais encore à Poplard. Avec Thomas Grice, Harry Samuel, Léon Crucher, le Nantais et quelques autres, je fréquentais la Rose des Vents, un pub de Pennyfields à côté du restaurant chinois. C'est là que je connus un jeune homme, George Schwartz, que nous appelions le Gay Lothario. Il maquillait les cartes et faisait le bouc sur les champs de course. Sa mise soignée lui valait auprès des femmes molles de notre milieu une réputation qui nous diminuait. Je n'aimais pas beaucoup le Gay Lothario. Mais je devinais qu'avec un complet comme les siens, dans un tweed épais comme du feutre, je pourrais triompher de lui devant tous, surtout devant les femmes de la lumière mauve. Par contre, nous ne tolérions qu'une femme aux réunions privées de la Rose des Vents dans l'arrière-boutique. Et c'était la petite Tess de Limehouse.
Hé, hey, Tess! Veux-tu boire dans mon verre?
Qu'est-ce que c'est, Jean-Rose?
Du chéri, mignonne.
Oh oui, le chéri, c'est une rose dans un cerisier.
Mais laissez donc une place devant le feu à la petite Tess. Elle doit avoir froid. Ça.
Plutôt! Je reviens de l'île aux chiens. On y gèle, je n'ai rien fait.
Tess, je voudrais t'embrasser sur les lèvres pour te réchauffer.
Fous-nous la pelle, Galotario.
Ouais, fous-nous la pelle.
Hé, hey, Tess, on va jouer. Tu vas nous reconnaître.
Ok, tu pouvais attendre que le gin te sorte de la bouche en vapeur bleue et le chéri en nuage rose.
Ouais, le peintre est en forme, hein. Tess, bonjour.
C'est ça. Je vais vous reconnaître un à un. Oh, homme. Oh, beau jeune homme.
Oh, elle est chouette, l'amour. Oh, dis donc, elle est toujours aussi batte, hein, Tess.
Ah, il n'y a pas deux filles comme Tess dans tout Londres. Les copains, allez, on commence, Tess.
Oui, allez.
C'est trop facile. Tiens, toi, ton nez, Thomas Gruis, tu as le nez comme une pomme de terre germée. Toi, tes cheveux légers et ondulés, tes cheveux de fille, tu es le Gay Lothario. Oh, la moustache, c'est Harry Samuel.
Bon, bon, allez, à lui.
Lui, c'est Léon Crucher, le Nantais. Il a des mains en peau de lézard comme le briquet du Gay Lothario. Oh,
formidable! Imbattable, Tess!
Et lui, tiens, qui c'est le gars qui boude?
Oh, lui, ce n'est même pas la peine que je le touche pour le savoir. C'est Jean-Rose Archer.
Il en fait une tête, le peintre. Hein. Bien sûr, c'est sa poupée.
Tiens, et celui-là, Tess? Tu ne l'as jamais rencontré? Ah, celui-là, c'est plus difficile. Hein. Approche, Martine. Bah, approche, quoi, voyons, approche.
Allez, vas-y, Tess.
C'est vous le monsieur que je n'ai jamais vu? Vous. Vous êtes un gentleman de couleur.
Oh, oh, bravo! Oh, là, le formidable!
L'association des compagnons de la Rose des Vents n'avait pas pour seul but ces jeux innocents. Nous décidâmes notamment d'organiser un tribunal afin de juger les erreurs commises par les gens de notre milieu. C'est ainsi que Thomas Gruice, qui avait de mauvaises fréquentations, fut à moitié assommé. Puis, à la suite d'une opération où il avait eu de regrettables confusions entre le tien et le mien, ce fut le cas du Gay Lothario qui fut mis sur le tapis. Quand je dis le tapis, cela doit être pris à la lettre. Le Gay Lothario fut joué au poker dice, et il ne resta de ce donjon de Whitechapel que la chose la plus fugitive du monde, un plouf dans les eaux noires des docks. Il nous cassait les pieds, le Gay Lothario, avec ses complets, ses briquets et ses indéfrisables. Il me resta de l'aventure un complet marron, une casquette, trois chemises à carreaux et une paire de souliers jaunes un peu défraîchis. Tess, la première, passa les mains sur les revers de ma veste.
Oh,
Jean-Rose, tu as le même tweet que le Gueulotario.
Oui, c'est bien le même, Tess.
Tu es un bel homme, mon chéri. Ainsi, les lords doivent apparaître la nuit dans les jardins parfumés de la béatitude et de la vertu.
Tess, tu répètes au hasard les phrases qui t'ont paru touchantes dans les feuilletons que je t'ai lus.
Jean-Rose, je le sens, tu vas partir.
Ma foi non, Tess.
Vrai ?
Vrai.
Alors tu veux me faire plaisir ?
Bien sûr, Tess.
Emmène-moi dans la rue des docks de l'Ouest, sous la lumière des lampes électriques.
Pourquoi ?
Jean-Rose, tu vois clair, tu lis trop pour ta tranquillité, tu as un beau complet, tu fais de la peinture, mais tu ne comprends pas les femmes.
Explique-moi. Pourquoi, Tess ?
Mais parce qu'on nous verra, Jean-Rose.
Bien sûr, je fis ce jour-là ce que Tess me demandait. Comme d'habitude.
Est-ce que je suis heureuse, Jean-Rose ? Les gens se retournent sur toi. Je sens qu'ils pensent, quel est ce beau jeune seigneur qui promène dans le parc du roi sa bien-aimée ? Hein, ils pensent ça, Jean-Rose ?
Peut-être,
Tess. Oh, c'est certain. Les femmes se retournent, toutes. Dis-moi que les femmes se retournent pour te voir.
Mais elles se retournent. Oh,
comme elles ont de la chance de te voir. Mais je ne leur en veux pas. C'est pourtant pour ça que j'aurais voulu guérir.
Tu guériras, Tess.
Non, je ne te verrai jamais.
Mais si, maman a encore dit que la dernière fois qu'elle t'a amené à l'hôpital, les médecins étaient contents. Ils ont même parlé de toi dans les journaux.
Non, ils ne peuvent plus rien. La dernière fois, je les ai entendus discuter. Ils ont dit qu'ils me guériraient.
Ah, tu vois ?
Qu'ils me guériraient s'ils pouvaient me soigner tous les jours dans une clinique. Une clinique chère, Jean-Rose.
Hein ?
Mais ça ne fait rien, ne sois pas triste. Je suis heureuse comme ça. En ce moment, tiens, je te vois si bien que je n'ai même plus besoin de voir.
J'avais tiré de mes aventures récentes à la Rose des Vents une certaine somme d'expérience, notamment en ce qui concernait le bien et le mal. Par exemple, je savais que le remords ne pèse pas lourd auprès du plaisir que peut éprouver un homme jeune à porter un costume de laine relativement neuf. Et l'idée que la lumière peut s'acheter par un nombre impressionnant de guinées ne me quittait plus. J'y pensais un soir, plus que jamais, à la Rose des Vents, devant deux soldats à longue capote, d'un gris que l'éclairage faisandé du comptoir faisait mauve et vert.
Alors, vous êtes content comme ça, les griffetons ?
On est pas mal dans la garde irlandaise, jeune homme. Si vous voulez nous y rejoindre, on a augmenté les primes.
Ah, très peu pour moi, sergent, hein. Chacun son goût.
Oui, mais tu parles de ce qu'on peut manger comme viande. Dis donc,
oui.
Qui c'est les deux filles d'abord ?
Des amis ?
Elles sont belles.
Plutôt, hein ?
La petite, surtout. Celle qui a des grands yeux. Une petite comme ça, je lui laisserai 15 jours de solde. De solde, sergent, fois de Magda.
C'est Tess qu'elle s'appelle.
Hein ? Oh, ses yeux. Admirable.
Elle a des beaux yeux parce qu'elle est aveugle.
Hein ?
Tenez, vous qui êtes pas aveugle, sergent, regardez-donc un peu. Ce sont des dessins. Léger.
Oh, c'est marrant. Et c'est fait à la main, jeune homme.
Exactement, hein.
Eh, dis donc, regarde un peu, Franck. Eh, c'est mon copain Franck.
Bah ouais.
Oh, il est saoul comme un cochon.
Comme un Irlandais.
Eh, toi, c'est pas parce que tu es le copain de la petite aveugle qu'il faut manquer de respect aux soldats de sa majesté, hein.
Excusez, milord.
Combien c'est tes dessins ? Oh, c'est pas pour moi. C'est pour faire rire les copains aux messes.
Un chelin pièce.
Je t'apprends celui-là.
Merci, sergent.
Bien. Voilà comment il faut parler à un sergent trésorier de compagnie de la garde irlandaise. Et dans l'exercice de ses fonctions encore. Pas Franck. Franck me convoie. C'est mon garde du corps. Heureusement que je suis fort comme quatre. Jean.
Jean, Miller. Hein.
À la garde irlandaise.
À la garde irlandaise.
Punch maintenant, hein. Moi, je marche à deux temps. Gin punch, gin punch. Comme le pas de parade.
Gin punch, gin punch, gin
punch. Et toi?
Punch.
Deux punch, barmaid. Rhum blanc. Dis donc, c'est tout de même formidable ce qu'elle lui ressemble, la fille de ton dessin.
Ben, bien sûr. C'est Tess qui m'a servi de modèle.
Elle t'a servi de modèle? Alors, si j'ai compris, ce serait toi l'artiste qui l'aurait dessiné.
À la main. J'ai pas signé à cause des bobbies.
Ah ben, ça alors. Oh, ça alors. Dis donc, tu crois que pour une livre...
Vous plaisantez, sergent. Deux livres.
Toutes les filles de la Mouse marchent pour...
Ouais, ouais. Mais c'est une aveugle.
Dans ce milieu candide et dépravé, les filles de la rue se courbaient sous la flamme du punch rose et bleu. Vêtues de leur tablier blanc, elles ressemblaient aux enfants de cœur du brouillard. Parfois, un ivrogne entrait en dansant comme une mouche dans le cercle éclairé. Alors, deux ou trois filles de la nuit fonçaient de l'ombre sur cette proie déjà disloquée. Ce soir-là, Magdara, née dans les faubourgs de Dublin, sergent et fonctionnaire imprudent aux poches bourrées de Guinée, laissa sa peau et ce qu'il y avait d'alcool dedans entre Poplar et Barking. Magdara, sergent de métier au régiment de la garde irlandaise. Magdara, qui mort ou vivant, avait l'air d'un pecno dans sa longue capote d'un gris violacé. Magdara. Les soirs qui suivirent, je revenais au pub comme un sphinx à ventre gris dans l'abat-jour d'une lampe à gaz. Et j'étais bien embarrassé pour présenter la chose à Tess. Nous bavardions cependant, Tess et moi. Au fond, à part le sergent et quelques matelots, les hommes ne s'intéressaient pas encore à elle. Et il devait rester chez ma petite amie une dose de pureté paralysante.
C'est vrai, Tess. Tu ressembles pas aux autres filles.
Je ne sais pas, je ne vois pas les autres.
Mais par exemple, tu ne dis jamais de mots d'argot. Pourquoi?
Oh, les mots d'argot sont vilains, grouillants et tout rouges.
Comment sais-tu qu'ils sont rouges puisque tu n'as jamais vu les couleurs?
Si, je les vois. Tiens, le mauve, c'est comme la joue du petit enfant de Sarah, la métisse. Je sais les couleurs, tu en parles toujours. Tiens, voilà le rouge. Je n'aime pas le rouge. J'ai peur du rouge. Tout le monde me dit que le sang est rouge.
C'est une vérité première, Tess.
C'est pour ça que j'ai entendu toute la nuit ce bruit. Ce bruit. Toute la nuit où ce sergent irlandais a une congestion, tu sais. Et que je me suis sauvée jusqu'à la maison.
Oui, je sais, je sais. Moi non plus, je n'aime pas le rouge. Tu es blonde, ma petite Tess.
Oh, explique-moi le blond.
Le blanc, c'est de la poudre d'or.
Les guinées qui sonnent si claires quand elles tombent.
Oui, tiens, c'est aussi le pain français.
Quand il est chaud, quand il craque et qu'on le trempe dans le café au lait comme ta mère.
Oui, et le sable?
Le sable de Plymouth. J'y suis allée l'année dernière, ma sœur Jessie avait un capitaine de cargo. J'ai pris le sable dans mes mains. Il glissait dans mes doigts. Il était chaud.
Oui, le blanc, c'est toi, Tess. Je t'aime bien, Tess.
Moi? Je t'aime, Jean-Rose. Faut pas être triste pour ça, Jean-Rose.
Je suis pas triste.
Si. Tu es triste depuis que je t'ai dit que je n'aurais jamais assez d'argent pour aller à la clinique et voir le blond, le rouge, le ciel. Oh, tu te rappelles la chanson de ta mère?
Le shintok, le rat, le pot de bière, cette rengaine.
Eh bien, je la sais en entier. Écoute. La 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 la. La ronge et la souricière.
Bah tiens, tu vas monter sur la table et puis tu vas la chanter, hein. Ils sont tranquilles ce soir, puis on fera la quête. Tu veux?
Bien sûr.
Tu n'as pas peur?
Non.
Hein? Bon.
Tu m'aides?
Oui. Tiens, attention au pichet, hein.
Oui.
Voilà. Ça va?
Oui.
Bon. Kitty, arrête le piano mécanique. Et maintenant, honorable assistance, notre petite amie Tess de Limehouse va vous chanter le plus joli morceau de son répertoire.
Oh,
ciel. Il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants, il était chaud comme un enfant. Je l'ai versé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis.
C'était étrange. C'était ma petite Tess qui chantait, les yeux clos, les mains en avant. Mais c'était moi que j'entendais. Et toute mon enfance me revenait à la gorge.
Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine il fit jouir et sourit. Et j'ai dansé toute la nuit, avec mon chin-toc ébloui. Et chez Charlie, il faisait jour et chaud. C'est jouer des ibelles sur son vieux piano. Un piano avec ses dents de...
Allez, allez, allez. Oh, chenet, vous autres laissez-nous écouter Tess.
J'ai conduit le chinois dans ma chambre. Il a mis le rat à la porte. Il a arrêté la pendule et renversé le poids bien. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos, alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé. Un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge sans spécialité.
C'était un couteau perfide et glacé, un sale couteau rouge de vérité, un sale couteau rouge sans spécialité.
Et de bobards pour Poplard sur les quais. Toute mon enfance, quoi.
Ils ont donné beaucoup d'argent, Jean-Rose.
Oui, Tess, tiens.
Tu as pris ta part, Jean-Rose?
Non.
Il faut, Jean-Rose.
Non.
Je vois bien que tu ne m'aimes pas, Jean-Rose.
Si. Garde tout, Tess.
Mais, Jean-Rose, il y a des guinées, des dizaines de guinées. Mais il n'est pas possible qu'ils aient donné tout ça, Jean-Rose, il faut
que les petites filles qui ne voient pas clair ne cherchent pas à voir clair dans les affaires des hommes.
Ça sera pour tes yeux. Soyons comme une petite princesse, Tess. Comme une petite princesse.
Par son chant, sa beauté et son mystère, ma jeune amie devenait vraiment la princesse des docks. Maintenant, elle allait tous les matins à une clinique huppée, dans un beau quartier. Dans un si beau quartier que je n'aurais même pas pu l'accompagner à la clinique où l'on soigne les chiens de la gentry. Et le soir, elle triomphait dans un répertoire d'époque que le temps a complètement vidé de son intérêt. Des gens venaient la voir de loin, d'Amsterdam, de Mayfair et de France. Des capitaines bien rasés et habillés à la dernière mode colportaient sa gloire dans les bars de Vancouver, de Rio, de Buenos Aires.
Jean-Rose, j'ai reçu une carte postale. Le facteur m'a dit que c'était d'un capitaine argentin. Veux-tu me la lire?
Bien sûr, Tess. Tess, tu es l'amphitrite aux yeux clos de la marine marchande. Tu prends à l'abordage les cargos enchaînés à ton cœur. Les officiers et le steward te donnent des sous. Oh, Tess, amphitrite, à l'abri dans les docks du Surrey, les feux verts de tes yeux éteints sur l'eau épaisse, écoute la chanson du gaucho.
Est-ce que c'est beau?
Ouais, plutôt marrant. Non, surtout les feux verts des yeux éteints, sans te faire de peine, Tess.
Ça vient d'où?
De La Plata, de l'autre côté du monde.
On connaît la petite Tess de l'autre côté du monde, mais la petite Tess ne connaît même pas ce côté-ci du monde. Qu'est-ce que c'est une amphitrite?
C'est un poisson de mer. Tu parles?
Oh, relis la fin, tu veux, Jean-Rose? C'est le plus beau.
Amphitrite à l'abri dans les docks du Churet, les feux verts de tes yeux éteints sur l'eau épaisse écoutent la chanson du Gocho.
C'est un homme qui a écrit ça. Un homme plus beau que les plus beaux mots de sa chanson. Un homme lourd, avec des mains instruites, vives et robustes comme des machines. Oh, Jean-Rose, il faut donc que je sois condamnée à ne voir les hommes qu'avec mes mains.
Ne pleure pas, petite Tess. Tu verras, bientôt. Les hommes en blanc ont dit que tu verras les étoiles et les beaux hommes sous la lumière du soleil.
Et toujours cette sacrée rengaine de piano mécanique me revient à l'esprit quand je me souviens de cette histoire. En réalité, nous n'étions pas convaincus que Tess apercevrait jamais le ciel et ses beaux hommes qu'elle adorait avec une frénésie de chlorotique. Et puis, ce fut un soir à la Rose des Vents.
Bonsoir, Tess. Ça va?
Je ne chanterai pas ce soir. J'ai mal à la tête, Jean-Rose. J'ai une tête toute petite, toute légère.
Kitty, un punch pour Tess. Hey, faut combattre le brouillard.
Je vois des aiguilles de feu qui filent dans tous les sens.
Bah, c'est bon signe, tu sais, Tess.
Fiche dans la paix à Tess. Si elle doit voir, elle sera la première à s'en rendre compte. Tiens, appuie ton front contre mon épaule, Tess. Dis, comment imagines-tu le brouillard? Une rue, une maison, la foule, l'eau de la Tamise et la ville, Londres.
Londres, c'est ce qu'il y avait autour de moi quand j'étais petite fille. Avec un bruit de laitier, une odeur de stockfish. Et le brouillard qui sort du nez en paquet de coton humide.
Tu dois avoir raison, Tess.
Tess, tiens-toi à carreau. Une bordée de la marine royale qui prend la boutique pour un compte torpilleur.
J'ai toujours mal à la tête, Jean-Rose.
Les aiguilles?
Non. Je dirais plutôt que le monde devient grand autour de moi. Mais qu'est-ce que j'ai? Mes mains ne touchent plus les choses. Ce sont mes mains qui deviennent aveugles.
Tu as les mains qui tremblent et froides.
Ils sentent bon, les marins. Oh, homme, 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 je vous adore. Ils sont au moins 20.
Comment peux-tu les compter, Tess?
Je sens. Ils font des vagues autour de moi.
Tu vas mieux?
Les aiguilles sont parties. Tout est très noir. Tout est très bien. Tout est très calme. Jean-Rose! Au secours!
Tess!
Jean-Rose, on te déchire! Mes yeux deviennent comme les yeux des langoustes!
Tess, ne bouge pas! Ne bouge pas! Ferme tes paupières.
Je ne peux pas. Oh, c'est horrible. Il y a du piment partout. Jean-Rose, où es-tu?
Là.
Ne m'abandonne pas. Il y a quelqu'un qui me serre contre lui. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi, ça me prie.
Mais ne bouge pas, Tess. Voyons, c'est moi. C'est moi, Jean-Rose.
Toi?
Laisse-moi regarder tes yeux. Tess. Tes prunelles vives. Les gars! Tess, vois clair!
Devant ce miracle, les matelots sous eux-mêmes avaient fermé leur boîte à jurons et il y avait autour de nous un magma de type débraillé et de filles peintes. Alors, je me souviendrai toujours, comme elle avait coutume de le faire, Tess promena très lentement ses mains sur ma figure. Puis, ses mains tombèrent d'elles-mêmes.
Laissez-moi. Allez-vous-en. Voilà donc les hommes et le visage des hommes. Mon Dieu! Vous n'avez pas pu vouloir ça. Oh, quelle douleur!
Tess, ma petite amie. Tu t'habitueras, hein? Forcément, la première fois. Écoute, Tess. Ferme tes yeux. Il faut reposer tes yeux. Rentre chez toi, tu vas dormir. Puis demain, avec le jour, tu regarderas. Tu sais, les bords de la Tamise, les docks, Les fleurs d'Annette, toutes les choses dont tu rêvais, et le ciel. Et tu nous regarderas.
Te parle, pauvre petit oiseau. Avec des gueules comme les vôtres, vous lui avez fait peur.
Je veux m'en aller. Jean-Rose, tu vas me guider. Maintenant que je vois clair, je ne retrouverai plus ma route.
Viens, Tess.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas, derrière les gens?
Du côté de la porte?
Ce qui fait comme c'était dans ma tête, comme je ne voyais pas.
C'est la nuit, Tess.
Oh, emmène-moi dans la nuit.
Embrasse-moi, Tess.
Oh non! Je te demande pardon, Jean-Rose. Non. Pas maintenant. Plus tard, Jean-Rose. Il faut que je m'habitue. Oh, il fallait donc que tu sois ici. Jean-Rose. Mon Jean-Rose.
Ma mère avait raison. Le spectacle que nous donnions devait être décourageant. Nos sales faces marquées par la misère et le vice produisirent pourtant un miracle. Tess abandonna la chambre et les accessoires diaboliques de sa jeunesse. Et moi, je partis vers une destinée plus conforme à mes goûts. Ma mère est morte depuis. Ma sœur Annette est devenue une lédée. C'est elle qui a retrouvé Tess, la petite fée aveugle des docks. Tess travaille maintenant dans une usine de Putney. Pour s'y rendre, elle file le long des murs, telle une souris. Elle est grise comme les murs, et le travail mal rétribué. Ses jours de repos, elle reste chez elle. Son ménage ne lui prend guère de temps. Quand tout est en ordre, elle s'allonge sur son lit et elle ferme les yeux. Sans doute pour vivre une existence incompréhensible dont elle garde l'invincible nostalgie. Pour vivre au milieu des odeurs et des sons, une existence où les hommes, doux, beaux et grands, naissent et tournent et s'éteignent sous les jeux de la lumière froide. Je pense rarement au sergent McDara. Je pense rarement au gay Lothario. Il ne m'empêche pas de dormir. C'était un type peu intéressant, le gay Lothario. C'était un crâneur. Tout de même, ma mère avait bien raison de chanter, sans comprendre un traître mot à ce qu'elle disait.
J'ai conduit le chinois dans ma chambre. Il a mis le rat à la porte. Il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants pour le bercer comme un enfant. Il s'est endormi sur le dos. Alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé. Un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge. Sans spécialité.
La radiodiffusion française vous a présenté La fille de Londres de Pierre Macorlan de l'Académie Goncourt et Armand Lanoux. Voici quelle en était la distribution. Germaine Montero, la mère de Jean Rose. Yves Brinville, le père. Régine Chantal, Tess, enfant. Michel Dumur, Jean Rose, enfant. Claudie Longet, Annette. Serge Emmerich, le gay Lothario. Léo Noël, le marin. Jacques Ling, le sergent McDara. Avec Pierre Trabeau, Jean Rose. Françoise Vernilla, Tess, et Olivier Husneau, le récitant. C'est le compositeur Marceau qui accompagnait à l'accordéon la chanson La fille de Londres, au banjo, Lucien Belvallée. Effets spéciaux de musique concrète de Pierre Henry. Bruitage Robert Moffra. Prise de son Jean Godet. Collaboration technique Charles Marié et Yves Lerouzès. Assistante Olga Lancement. Réalisation Georges Godbert.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 29 mars 1953. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
With your loving, there ain't nothing that I can't adore. The way I'm running with you, honey, means we can break every law. I find it funny that you're the only one I never looked for. There is something in your loving that tears down my walls. I wasn't ready then, I'm ready now. I'm heading straight for you. You will only be eternally the one that I belong to. I'll be yours.